France Inter, le 18-20.
Ce soir, vous ferez la connaissance d'une femme qui donne un visage, qui donne un nom, qui donne une histoire aux migrants morts en Méditerranée. Elle est médecin légiste, elle est italienne, son travail est minutieux. Son récit est bouleversant, en parler est nécessaire. Christina Cattaneo est avec nous et c'est dans un instant. Le bruit du monde en Russie avant les élections locales avec un Poutine qui fait le vide parmi ses opposants. Amélie Perrier, elle nous emmène à Dakar et aussi au Maroc avec une journaliste de 28 ans qui est accusée d'avoir avorté. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Et Angélique Boin, ou comment le recyclage du papier ne va pas de soi. 18h55, le monde à l'envers et Jean-Marc Four et cet accord vite fait mal fait entre les talibans et les américains. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Christina Cattaneo.
Bonsoir.
Je me suis promenée partout dans les couloirs de France Inter avec votre livre ces derniers jours en disant qu'il fallait absolument le lire. Et je le dis aussi évidemment à ceux qui nous écoutent parce qu'il est bouleversant. Je le disais tout à l'heure, il n'est pas seulement, il est aussi sûrement nécessaire. Vous êtes médecin légiste, donc vous dirigez un laboratoire qui est à Milan. On a appris à vous connaître d'une interview à l'autre, c'est vrai. Mais depuis 2013, vous vous démenez pour donner des noms donc aux migrants morts en Méditerranée. Vous le faisiez déjà avec les disparus, les morts sans identité. Oui. Le faire pour les migrants s'est imposé en 2013. Vous allez nous raconter, notamment après le fameux naufrage de Lampedusa, le premier probablement qui a marqué les esprits. Il y avait eu 366 morts. Votre livre s'appelle « Naufragé sans visage » et c'est publié chez Albin Michel. Et je voudrais commencer par ce qu'on vous dit d'ailleurs, ce que vous dites, ce que vous entendez beaucoup. Et peut-être que vous l'entendez d'ailleurs encore énormément. Mais qui veux-tu qui les cherche encore, ces morts? Ils viennent de pays dévastés, sans état civil. Qui sait même où sont ces familles? Est-ce qu'on ferait pas mieux de jeter une couronne de fleurs à la mer et puis basta? Est-ce que vous l'entendez encore, ça?
Un peu, mais moins. Parce que on a démontré avec ce petit expériment, entre guillemets, qu'on peut les identifier. Et ce que a fait démarrer tout, c'était le fait qu'on était devant la catastrophe la plus grande après la Deuxième Guerre mondiale. On parle de plus de 30, 40 000 morts. Et personne ne se bougeait pour les identifier. Et ça, c'est vraiment un non-respect des droits des parents de ces morts.
Et personne ne jugeait ça utile, surtout. Personne n'y avait même songé, au fond, avant vous.
Exactement. Bon, avant nous, avant un petit bureau du commissaire du ministère de l'Intérieur en Italie qui a cherché de faire ça avec nous.
Ce que vous avez démontré aussi, et surtout, c'est que non seulement on peut les identifier, mais surtout, il y a des gens qui les cherchent. Et c'est peut-être ça, c'est à côté de ça qu'on était en train de passer. Il y a des gens qui cherchent leur famille, partout.
Oui. On a vu ça pour la catastrophe du 3 octobre, au début, on a vu que plus que 80 familles sont venues en Italie, à Milan, à Rome, avec très peu de moyens, en voiture de l'Allemagne, de la Suisse, à apporter les choses qu'ils pensaient que pouvaient aider pour les identifier et pour trouver ces morts. Et maintenant, parmi la Croix-Rouge qui est en train de travailler dans les pays des morts du Barcone et de la grande catastrophe du 18 avril 2015, on a ouvert plus que 300 dossiers de familles qui cherchent les morts sur ce bateau.
Alors vous allez nous raconter comment vous faites toute la difficulté de votre travail post-mortem, ante-mortem, parce que il faut se remettre à l'esprit comment ça marche. Il n'y a pas de corps en bon état. Vous avez parlé du Barcone tout à l'heure. Il a été sorti. Ces pauvres gens sont restés extrêmement longtemps dans l'eau en fait avant qu'on puisse les sortir. Donc pas de corps en bon état, pas de liste de passagers, pas de lieu unique puisqu'on ne sait jamais réellement d'où ils viennent. Pas de famille là sur place pour les reconnaître. Donc comment vous faites? Vous commencez comment en fait?
On commence par examiner comment on fait pour les catastrophes normales, entre guillemets, avec les vêtements, avec les cicatrices qu'on peut encore voir, avec les petites anomalies dentaires et avec l'ADN. C'est beaucoup plus difficile qu'avec une catastrophe des nôtres, entre guillemets, mais c'est possible parce qu'on a vu avec Facebook, ils portent des photos de Facebook qui montrent des tatouages qu'on peut voir encore sur le cadavre, et c'est vraiment possible. On arrive à les identifier avec des financements, ça c'est le point important, avec une organisation, parce que la chose la plus difficile, c'est de entrer en contact avec les parents, et c'est un problème qu'il faut résoudre avec l'aide de l'Europe, parce que si on pense, les morts sont au sud de l'Europe, les vivants, les parents, beaucoup sont au nord et sont en train de devenir des citoyens européens.
Est-ce que vous avez réussi, est-ce que vous avez le sentiment qu'on arrive à tisser un réseau. Aujourd'hui, est-ce que tous ces gens savent que vous existez, vous, que ce laboratoire existe, en fait, ou pas?
Non, je pense que ça, c'est la tragédie, c'est la grande difficulté de la communication. C'est très difficile d'entrer en contact avec ces personnes encore maintenant.
Parce qu'au fond, quand on y songe, il suffirait de dire à toutes les associations européennes qui gèrent, parce qu'en général, ce sont des gens qui sont en train de demander l'asile, donc on sait où ils sont. Ce serait tellement simple, au fond, de leur dire cet organisme existe, donc si vous cherchez des gens, voilà où vous adressez. Ça paraît pas si difficile, en
oui,
fait.
Oui, c'est exactement ça. Et je pense que s'il y avait, par exemple, des hotspots en chaque pays de l'Europe, ça pourrait se faire très facilement.
Vous dites surtout, vous racontez que vous cherchez à identifier effectivement les gens. Il y a l'ADN et puis il y a les objets personnels. Et c'est au fond les choses les plus émouvantes, les plus terriblement émouvantes. On a déjà eu l'occasion de raconter ce jeune garçon qui avait son bulletin de notes accroché à son manteau, ce qui est absolument terrible. Je vois là quelque chose qui a résonné, moi, à mes oreilles. Des morts, encore des morts, vous dites, avec leurs vêtements et tout ce qu'ils avaient dans leur poche, terriblement semblable aux nôtres. Des t-shirts et des shorts avec les logos de la Juventus ou du Real Madrid, des téléphones, des cartes SIM, des photos, des dessins, des journaux intimes, des livres, des brosses à dents, des dentifrices, des écouteurs. On aurait dit les valises de nos adolescents. Et c'est toujours bon de se rendre compte que, c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. C'est ça que vous voyez tous les jours.
Mais moi j'espère vraiment que c'est, et je vois que ça, c'est le raisonnement qui touche le plus les gens. Les gens sont plus touchés par les notes, par le bulletin scolaire que par un raisonnement scientifique de la nécessité des droits et tout ça. Donc j'espère que ça aussi va faire quelque chose.
Vous montrez des fois des fragments de papier. Il y a un passage très, très émouvant avec une femme qui reconnaît l'écriture de son frère.
Oui. Et son numéro de téléphone.
Et son numéro de téléphone à elle. Donc il était censé l'appeler elle en arrivant.
Exactement.
Et évidemment, il ne l'a jamais appelé. Il faut expliquer pourquoi c'est important, parce que sans certificat de mort, s'il y a des enfants...
Oui.
Ils ne peuvent plus être adoptés par la famille qui leur reste, etc.
Exactement, on a vu un cas où la sœur de la mère morte avait besoin du certificat de mort parce que les orphelins étaient encore en Somalie, ils étaient mineurs, ils ne pouvaient pas rejoindre la tante, la seule parente vivante qu'ils avaient, parce qu'il n'y avait pas le certificat de décès de la mère et du père. Donc c'est important d'un point de vue administratif aussi, pas seulement pour la santé mentale des parents.
Hein. Évidemment, Christina Cataneo, combien vous avez identifié de personnes jusque-là?
Très peu maintenant, seulement 40, mais je trouve que cette chiffre est très très petite et un point d'où partir, parce que on voit ça démontre qu'on peut les identifier et il y avait des gens qui disaient bon, il n'y a pas d'état civil, il n'y a rien, on peut pas les identifier.
En fait,
bon,
si.
C'est pas vrai, ils les cherchent, on peut les identifier, on doit les identifier.
Il y a autre chose que vous faites, vous donnez un âge aux vivants. Il y a ce passage dans votre livre qui est vraiment important, parce que les mineurs et les adultes sont deux choses très différentes. Et votre rôle, c'est aussi ça, d'examiner les gens.
Oui, les vivants.
Les vivants.
Les vivants, parce qu'avec phénomène de la migration, les médecins légistes sont appelés à déterminer l'âge des vivants et aussi à examiner les corps de ceux qui demandent l'asile pour voir si il y a les signes, les cicatrices de tortures, de persécutions, et pour les aider dans leur parcours de l'asile, de la demande d'asile.
Les vivants, heureusement, vous croisez aussi des vivants.
Même s'ils sont dans des conditions qui ne sont pas tout à fait excellentes, mais le corps, ils parlent, ils racontent de ces maltraitances, et je dois dire que plus en plus, les corps de ces gens qu'on voit, des vivants, sont en train de nous raconter ce qui arrive en Libye, par exemple. C'est une nouveauté, entre guillemets, pour nous.
Et c'est important pour les demandeurs d'asile derrière. Et ce qu'ils vous disent surtout, c'est qu'ils sont contents d'avoir été bien traités. Est-ce que ça veut dire que c'est la première fois qu'ils sont bien traités depuis leur énorme périple a commencé, en fait?
Absolument, oui.
Comment vous faites, vous et votre équipe, sincèrement? Il doit y avoir des moments plus durs que d'autres.
Il y a des moments qui sont très durs, surtout avec les parents, mais comme vous disiez, avec les objets qu'ils ont dans les poches. Chacun de nous, le médecin légiste travaille tous les jours avec cette réalité. Je trouve que en parler et pour moi écrire ce livre a été une façon peut-être de le mettre dans une place. Où il a un sens.
Est-ce que vous avez le sentiment que cette cette rencontre avec ces morts-là a changé votre regard sur les vivants et aussi d'ailleurs sur tout ce qui se passe en Méditerranée aujourd'hui.
Oui, cette expérience nous a tous changé. On a touché avec les mains ce qui se passe, le risque que ces gens, ces adolescents courent, et ça a changé notre regard sur les vivants, surtout sur les migrants vivants. Et quand tu les vois dans la rue, tu penses s'ils ont quelqu'un qui est mort, tu penses aux risques qu'ils ont couru, tu penses à ce qu'ils ont pu subir dans leur pays. Ça change beaucoup.
On le voit, votre travail aujourd'hui, et vous l'avez dit, ce qu'on expliquait sur les effets personnels qu'on retrouve ici et là, c'est très émouvant à lire, c'est émouvant à raconter aussi. Vous l'avez beaucoup bougé, votre livre, y compris d'ailleurs chez vous en Italie. Mais au fond, est-ce que ça change aussi l'opinion que les gens peuvent avoir? Je vous pose la question parce que on s'émeut, nous, parce qu'on voit une photo d'un enfant sur une plage. Ça dure une de journal, et puis après on passe à autre chose, et surtout en ce moment que la situation devient de plus en plus compliquée aujourd'hui pour l'accueil des migrants. Donc, est-ce que vous avez le sentiment de bouger des lignes avec ça? Est-ce qu'on vous l'a dit? Est-ce que, je ne sais pas, il y a des bénévoles qui arrivent après vous avoir lu? Est-ce que vous avez ce sentiment-là?
Je ne sais pas, mais je peux vous dire que quand j'ai fait une présentation il y a quelques mois à Milan, il y a une femme qui est venue me parler. Elle a dit « Bon, c'est bien, et vous savez, moi, je viens de l'autre côté. » Elle m'a dit « Je suis anti-migrant, je n'aime pas tout ce mouvement, mais vraiment, en lisant votre livre, j'ai commencé à changer d'avis. » Bon, là, j'espère que c'est quelque chose qui peut se répéter.
C'est comme l'identification des morts, c'est long, mais éventuellement,
peut-être ça peut arriver quelque part.
Est-ce que vous avez fait des émules dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on essaye, comme vous, d'identifier désormais les migrants ou pas?
Bon, en Italie, il y a beaucoup d'universités, les universités qui ont partagé le travail à Melilli continuent à travailler avec nous maintenant. On est en train de chercher de se partager le boulot qui était très grave pour l'ADN, avec l'ADN.
Et ailleurs en Europe, est-ce que vous avez ce partage-là ou pas?
Pour l'instant, non.
Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que ça vous aiderait? Parce que je ne peux pas imaginer la dose de travail qui est le vôtre aujourd'hui. Depuis que vous racontez ça, le nombre de gens, hélas, qui sont morts en Méditerranée a sûrement doublé ou triplé.
Oui, et c'est pour ça que cela que je décris, ça peut qu'être un expériment, entre guillemets. On a créé un modèle, on a démontré qu'on peut le faire, mais maintenant, il faut passer la balle, on dit comme ça, aux institutions européenne pour qu'il fasse quelque chose, parce qu'on peut pas se fermer maintenant qu'on sait qu'il les cherche et qu'on peut les identifier, mais donc il faut passer la balle.
Vous vivez dans un pays, l'Italie, Christina Cattaneo, qui de ce point de vue là je sais pas comment je vais qualifier ça, en tout cas fait beaucoup parler de lui. C'est bien là que ça a commencé, le refus de faire accoster les bateaux. Et pourtant, et c'est ça le grand paradoxe, il y a deux choses. D'abord, la marine italienne a été formidable, vous le dites, et vous leur rendez hommage.
Franchement, dans ces jours, dans ces mois, j'ai l'impression de vivre dans un pays extrêmement schizophrénique. Mais pour ceux qui regardent l'accueil des vivants, il faut se rappeler que l'Italie, quand on cherchait d'identifier ces morts, accueillait 200 000, il y a, dans 2016, 200 000 vivants qui avaient besoin de soins. Donc, c'est un pays que je trouve maintenant, ce qui est en train d'arriver maintenant, malgré ce qui est en train d'arriver maintenant, qui est un pays pour l'accueil. Je suis sûre de ça et je suis sûre qu'on va retrouver cette mentalité.
Est-ce que vous avez senti les lignes bouger quand même cette dernière année ou pas? Ou est-ce que votre travail à vous n'a jamais été ennuyé et a toujours été financé, surtout sans problème?
Bon, le travail sur les morts n'a jamais été financé, donc on n'a pas vu une différence sur les morts. Sur les vivants, oui.
Vous êtes en fonds propres de votre propre institut.
Exactement,
en gros.
C'est un fonds, on cherche, il y a des fondations, ça c'est le grand problème. Mais sur les vivants, le travail sur les torturés, sur les demandeurs d'asile, sur les mineurs, là on a vu une différence dans le comportement envers ces gens-là. Bon, là, ça a changé, mais surtout sur les vivants, sur les migrants vivants.
Ça a changé, c'est-à-dire dans quel...
On a moins de...
On vous en envoie moins, c'est ça que vous voulez dire?
On voit que les décisions sont différentes. Donc, nous sommes, les médecins légistes sont payés par le gouvernement ou par les municipalités pour faire ces examens sur les vivants torturés et sur les mineurs. Là, il y a moins d'argent pour ces choses-là. Et on voit que les commissions, il y a moins d'asiles qui sont donnés. On a enlevé une sorte de protection internationale. Et beaucoup de choses ont changé qui ne sont pas à faveur des migrants et des demandeurs d'asile. Et ça, on le voit très clairement.
Mais les choses sont très changeantes dans votre pays.
Bon, toujours. Christina Cattaneo, donc, on peut changer à mieux.
Donc, peut-être que ça changera en mieux. Pensez à leurs morts comme les nôtres. C'est un peu la phrase clé de ce livre. Merci beaucoup. Vraiment, ça s'appelle Naufragé sans visage et c'est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup de votre passage dans le journal.
Merci à vous.
Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
Dans la prochaine demi-heure, le bruit du monde est à Moscou. L'opposition est étouffée 72 heures avant des élections locales. Amélie Perrier, vous êtes notamment au Sénégal.
Au Sénégal, connu pour sa tolérance religieuse des filles voilées, renvoyées de l'école.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes avec Angélique Bouin. Bonsoir Angélique, on parle papier recyclé.
Oui, papier recyclé et embouteillage dans l'espace.
À tout à l'heure et juste avant 19h, Jean-Marc Four, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Le monde à l'envers, vite fait mal fait en gros, hein, entre l'Afghanistan et les États-Unis.
C'est ça, un accord de paix semble imminent, miroir aux alouettes.
Allez, à tout de suite tout le monde, on va pas se la raconter, voici les raconteurs, tiens. Haha, help me stranger, c'est ça, aide-moi étranger. Du monde à l'accent qui roule ce soir. Nous sommes en Russie à 72 heures des élections locales. Bon nombre de scrutins vont se tenir sans véritable candidat de l'opposition. Le Kremlin a fait en sorte, sous des prétextes pseudo-réglementaires, que la route soit barrée à toute contestation dans les urnes, alors que depuis deux mois, des manifestations sont sévèrement réprimées, 2700 arrestations durant l'été, beaucoup d'emprisonnements aussi. Vous allez voir avec Claude Brouillot que cette stratégie ne règle pas le problème des opposants à Vladimir Poutine.
Ils applaudissent par défiance un pouvoir qui les arrête, les moleste et parfois les emprisonne pour avoir osé braver l'interdit. Mais leur exaspération ne faiblit pas, alors ils reviennent chaque samedi. Ce ne sont pas que des jeunes. Léna, par exemple, a 68 ans. Elle dit qu'elle est privée injustement d'un candidat qui représenterait ses idées aux élections de dimanche.
Nous sommes juste un troupeau de moutons pour eux. Vous comprenez ? Juste un troupeau.
Pour la dernière manifestation non autorisée avant les scrutins locaux, ils étaient à peine 2000. Constantine Jankowska, c'est chercheur en économie à l'Académie des sciences. Il représente cette fameuse jeunesse moscovite éduquée qui se bat pour que les opposants en dehors du système obtiennent droit de cité.
Les élections sont simplement un prétexte dans le calendrier. La vraie raison, c'est que les gens en Russie vivent de moins en moins bien chaque année. On a eu l'augmentation de l'âge de départ en retraite, on ne trouve plus de travail. Je crois que les hommes politiques ne peuvent pas prévoir l'importance des manifestations, mais ils doivent laisser les gens s'exprimer.
Obliger le pouvoir à prendre en compte ses véritables opposants, c'est ce que veut également Vladimir, 65 ans, retraité du bâtiment, avec 150 euros de pension mensuelle. Lui est remonté contre Sergueï Sobyanin, le maire de Moscou, proche de Vladimir Poutine, déjà réélu, mais qui, selon lui, refuse tout dialogue.
Il ne veut pas parler avec nous. Dès qu'on manifeste, il ne veut plus parler. Il n'est pas d'ici, il vient de Xantimansi. Yuri Lushkov était un voleur, mais lui au moins, il était de Moscou. J'ai 82 ans, j'ai tout vu dans ma vie. Il croit que nous sommes tous des idiots.
Dimanche, les électeurs véritablement opposés aux candidats du pouvoir, les plus nombreux, vont soit s'abstenir dans ces élections locales, soit voter au contraire pour le représentant le plus éloigné des thèses du Kremlin. Mais cela ne règle pas le problème de fond qui se pose aujourd'hui à Vladimir Poutine face à cette contestation qui dure. Pour Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou, nous sommes à un moment charnière du mandat présidentiel.
Ce qu'on voit aujourd'hui, ces tout derniers jours, dans les réponses diverses qui ont été apportées, les réponses judiciaires, les réponses sécuritaires qui ont été apportées à l'opposition dite hors système, c'est qu'il y a une forme de flottement au sein du pouvoir. On a entendu certaines voix discordantes, y compris dans le premier cercle de Vladimir Poutine, M. Tchimezov, un de ses amis de 30 ans, issu comme lui de l'ancien KGB, qui a déclaré qu'il était souhaitable qu'en Russie il y ait une opposition saine pour éviter une nouvelle stagnation. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a un flottement sur la réponse à donner à cette opposition hors système, c'est-à-dire cette opposition extra-parlementaire. Est-ce qu'il faut lui faire une place, ou est-ce qu'il faut au contraire fermer les écoutilles et réprimer et maintenir hors du champ politique cette force qui, à l'échelle de la Russie, est assez marginale, mais qui, dans certaines villes, et à Moscou en particulier, ne peut plus être ignorée.
Que ce soit d'un côté la base communiste ou de l'autre les sympathisants d'Alexeï Navalny, l'opposant numéro 1 Vladimir Poutine, tous ont déjà annoncé de nouvelles manifestations après les élections locales de dimanche, avec le risque d'être à nouveau arrêté, comme notre jeune chercheur Constantine Jankoskas, déjà assigné à résidence pendant un an et qui vient de purger 27 jours de détention administrative pour avoir participé, comme des centaines d'autres, à des manifestations interdites cet été. La peur, dit-il, ne m'a jamais vraiment quitté, mais c'est comme si je l'avais en quelque sorte apprivoisé.
Tout le monde a peur de quelque chose, et en général, ceux qui ont peur s'enfuient. Bien sûr, dans certaines situations, ça fait peur, et j'ai peur. Mais la question c'est, est-ce que tu arrives à lutter contre tes peurs et tes émotions pour pouvoir continuer ce que tu as décidé de faire ? Bien sûr, après l'assassinat de Boris Nemtsov et l'agression contre le journaliste Oleg Kachin, tout le monde a eu peur. Mais tant que nos peurs ne se transforment pas en fuite, nous continuons.
Et pour que tout le monde le comprenne bien, dans un sourire tranquille et en guise de signature, Constantine Jankoskas fait l'effort d'afficher sa détermination d'opposant à Vladimir Poutine en français.
C'est difficile, mais c'est mon choix. J'aime la Russie, j'aime mon arrondissement, et c'est mon choix. J'ai peur, mais je continue.
Claude Brouillot, à Moscou. Merci beaucoup, Claude. Le bruit du monde passe aussi sous les radars, et c'est tout de suite. dans les rues de Dakar avec vous, Amélie Perrier, dans les rues de Dakar, ce qui nous permet d'ailleurs de comprendre que l'autorisation du voile musulman à l'école ne se pose pas qu'en Europe.
Oui, nous sommes ici à la sortie d'un établissement renommé à Dakar, Sénégal. L'école est catholique et refuse depuis la rentrée d'admettre en cours les filles voilées.
Aujourd'hui, il y a eu la rentrée des classes à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Et on s'est fait un peu humilier devant tous nos camarades parce que à cause du port du voile, alors que dans le règlement intérieur de l'école, ils avaient dit tête découverte. Et enfin, les mots n'étaient pas concrets.
Voilà, une élève voilée au micro de l'AFP. L'institution Sainte-Jeanne d'Arc a en effet adopté un nouveau règlement polémique dans un Sénégal majoritairement musulman et connu pour sa tolérance religieuse. Le Sénégal, rapidement, c'est une ancienne colonie française, aujourd'hui officiellement une république laïque, démocratique et sociale. Plus de 90% de la population est musulmane, beaucoup se revendiquent de l'islam soufi et les relations avec les autres religions, le catholicisme principalement, se font sans aucun accroc. Au Sénégal, vous ne verrez pas beaucoup de femmes voilées, souvent elles se coiffent d'une perruque ou d'un foulard assorti au tissu de leur robe traditionnelle. Très peu de hijab, le voile qui laisse voir l'ovale du visage. Seules les Sénégalaises les plus rigoristes et les étrangères le portent. Et le voile intégral, lui, est totalement interdit depuis 4 ans. Or, à Sainte-Jeanne d'Arc, on a accepté tous les élèves, peu importe leur croyance, mais il y a un uniforme et dans le règlement, c'est précisé tête découverte pour les filles comme pour les garçons. Les religieuses catholiques qui travaillent pourtant, elles portent le voile. La direction joue sur les mots en fait, se plaignent les parents, elle ne mentionne pas l'interdiction du voile, mais dans les faits, c'est ça, regrette un père d'une élève renvoyée. En mai dernier, quand la direction avait publié déjà son règlement, le ministre de l'Éducation nationale avait lui aussi évoqué des actes discriminatoires d'ordre socio-culturel et avait promis de mettre un terme à de telles situations. Là, le ministère affirme qu'une médiation est en cours. Le Sénégal, connu pour sa tolérance religieuse, doit garder sa réputation, a pour sa part réagi le défenseur des droits de l'homme sénégalais.
Au Maroc, on s'inquiète pour l'une de nos consoeurs.
Elle s'appelle Hajar Ressouni, elle est journaliste, elle a 28 ans. Elle vient d'être arrêtée, accusée d'avortement illégal et de relations sexuelles hors mariage. 5 jours qu'elle est en détention. Arrêtée aussi le médecin, l'anesthésiste, l'assistante médicale et son fiancé, un universitaire soudanais. La jeune femme dément avoir subi un avortement. Son avocat parle de soins pour une hémorragie interne. Et le journal dans lequel elle travaille, Akbar Al Yaoum, de publier en une sa photo et son bulletin médical attestant l'absence de curetage. Ses partisans dénoncent un acharnement politique. Car oui, la reporter a couvert ces événements, le Irak, les manifestations dans le Rif marocain contre la pauvreté et le pouvoir centralisé. Le procès d'Hajar Ressouni doit se tenir lundi prochain. L'interruption volontaire de grossesse est punie jusqu'à 5 ans de prison au Maroc pour celles qui avortent ou ceux qui pratiquent l'avortement.
Un autre bruit du monde bien mélodieux, celui-là, direction l'Italie pour un air donc très connu.
Oui. Bella Ciao, le chant révolutionnaire à la guitare. Et qui est ce musicien plutôt doué?
Mais vous allez vous le dire.
Eh bien, c'est le nouveau ministre de l'économie et des finances, Roberto Gualtieri. Il est du Parti démocrate, le PD qui fait désormais alliance avec les populistes du mouvement 5 étoiles, aux grandes dames de l'extrême droite et de Matteo Salvini. Pour ceux qui n'ont pas suivi la crise de cet été, Salvini et la Ligue gouvernaient avec les 5 étoiles jusqu'à vouloir prendre le pouvoir seul en demandant des élections. Mais la manœuvre s'est retournée contre lui. Son ex-allié a trouvé un nouveau partenaire. Gouvernement nommé hier donc. Avec Gualtieri, aux finances, il est pro-européen, convaincu. Et cette vidéo de lui jouant de la guitare, eh bien c'est Salvini qui la poste avec ce message. Il ne manquait plus que ça à l'économie. Un ministre béni par Bruxelles et spécialiste de Bella Ciao. C'est le fonds de commerce de Salvini d'attiser la peur des rouges, la peur des communistes, des socialistes. Sauf qu'un ministre qui joue aussi bien de la guitare, bah, ça vaut peut-être le coup de lui laisser sa chance au gouvernement.
Ça votre côté fleur bleue, c'est terrible. Allez, mais c'est vrai qu'il sait jouer le monsieur. Merci beaucoup,
franchement,
Amélie Perrier.
Mal.
Tiens, pas mal aussi, voilà Adèle sur France Inter, ça fait plaisir, il y avait longtemps, Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear, go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Underestimate the things that I will do. There's a fire starting. Adèle sur France Inter, Rolling in the Deep. Adèle qui est britannique comme chacun sait, donc pas encore sortie de Bruxelles.
France Inter.
Je suis venu vous parler de l'Europe.
The European Union, général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes et tu la quittes. Et Angélique Boin, Angélique, vous allez d'abord nous parler de nos poubelles, papier et carton et leur recyclage.
Oui, car le secteur européen, Fabienne, du recyclage est en pleine crise. Dans un communiqué, la Confédération européenne des industries du recyclage, le RIC, s'alarme de la surproduction chronique, de la chute vertigineuse des prix et s'inquiète face à la fermeture annoncée d'usines. Est-ce à dire que l'on est vertueux en Europe, que l'on recycle beaucoup? Eh bien oui, le tri qui s'est imposé dans les maisons et dans les bureaux ces dernières années porte ses fruits. En Europe, sachez que plus de 70% de ces déchets sont aujourd'hui traités et réutilisés. Et l'objectif fixé par les industriels eux-mêmes, c'est d'atteindre 74% en 2020. Au rythme où cela va, Fabienne, on va y arriver. Mais ce qui manque aujourd'hui, ce qui leur manque, ce sont des acheteurs. Mmh. Car la Chine, où l'on écoulait nos surplus chaque année, a quasiment fermé ses frontières depuis 2017. Elle a progressivement interdit ses importations dans le souci de protéger son propre environnement. D'autres pays, hein, comme la Malaisie ou l'Indonésie, ont suivi. Résultat, toujours selon les chiffres de l'ERIC, l'Europe produit aujourd'hui peu ou prou 8 millions de tonnes de papier recyclé chaque année dont on ne sait pas quoi faire et les prix ont donc plongé de plus de 300% en 2 ans. D'où cet appel au secours, l'industrie ne pourra pas supporter de telles conditions de marché pour une 3e année consécutive, s'alarme l'organisme qui demande aux Européens de prendre des mesures d'urgence. Mais tout le monde ne partage pas en fait cette analyse. Hein. Selon le site d'information Euractiv qui a mené l'enquête, en creusant un peu, ce que l'on découvre c'est qu'à la belle époque, hein, ce sont des papiers recyclés de très mauvaise qualité qui ont été massivement exportés vers la Chine. Vous savez, ce papier un peu gris hein, qui absorbe bien le café quand on le renverse. Des déchets en fait mélangés dont l'industrie chinoise ne savait parfois pas quoi faire. Les industriels les plus vertueux, selon le site d'information, ceux qui n'ont pas joué le court terme, ont eux investi depuis 2 ans dans des machines pour faire du papier recyclé de meilleure qualité. Et ce futur papier hein, de meilleure tenue donc trouvera sans aucun doute des débouchés en Europe. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous savez ce qu'il vous reste à faire lors de votre prochain passage dans une papeterie.
J'ai bien compris le message, Angélique. Merci beaucoup. Allez, en bref, et en Hongrie, une nouvelle mesure gouvernementale qui échauffe les esprits.
Oui, on avait assisté au printemps à des manifestations de chercheurs qui dénonçaient le renforcement du contrôle de l'État sur l'Académie des sciences. Pour eux, il s'agit d'une mainmise politique sur cette prestigieuse institution et sur leur travail. Eh bien, cette rentrée, c'est au tour des enseignants et des parents de s'inquiéter, car désormais, en Hongrie, ce seraient les services de l'État qui décideront si un enfant a assez de maturité pour entrer en maternelle. On ne se basera plus sur l'âge. C'est aussi le gouvernement qui décidera si un jeune peut ou pas aller dans le privé, selon le quotidien de gauche Népszava, qui dénonce donc une mesure attentatoire à la liberté, une nouvelle mesure décriée là-bas.
Et puis Angélique, on termine en allant faire un tour dans l'espace, désormais risque de collusion.
Oui, car on sait, d'ailleurs qui sait si un jour il n'y aura pas des bouchons hein, dans l'espace, des bouchons le vendredi soir et le dimanche, car l'Agence spatiale européenne, eh bien figurez-vous, cette semaine a annoncé qu'elle a dû dérouter un satellite pour éviter une collision avec un autre appareil. C'est une première hein, pour l'ESA. Aeolus, le satellite européen, avait une chance sur 1000 de tamponner Starlink, ce qui est un autre satellite, et ce qui est 10 fois plus que le seuil accepté. Reste à savoir qui aurait dû bouger le premier et se dérouter. Selon les Européens, c'est SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, car sa machine avait été mise en orbite après la leur, mais l'entreprise aurait refusé. À quand, Fabienne, une police dans l'espace?
Eh ben, emmenez-nous les clones de Star Wars, tiens. Allez, Angélique Boin, merci beaucoup, avec nous depuis Bruxelles.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, un accord de paix entre Américains et Talibans en Afghanistan serait donc imminent. En tout cas, c'est ce que laisse entendre l'émissaire américain à 3 semaines de l'élection présidentielle en Afghanistan. Sur le papier, ça paraît formidable. Tout ça, ça soulève l'optimisme. Mais dans les faits, ça vous paraît très illusoire. Donc, vous êtes pessimiste et c'est votre monde à l'envers.
On a envie d'y croire hein, parce que, marquons une pause, la paix en Afghanistan, vous imaginez, 18 ans après le début de l'intervention américaine consécutive aux attentats du 11 septembre, 40 ans après l'intervention soviétique, les 35 millions d'Afghans la mériteraient bien, cette paix, après 4 décennies de guerre et la mort de dizaines de milliers de civils, on ne sait même pas combien exactement, 40 000, 50 000, 60 000, on ne sait pas bien. En plus, voir les ennemis d'un conflit discuter directement, c'est généralement une bonne nouvelle. Et oui, depuis plus d'un an, les Américains et les Talibans négocient 9 rounds de négociations au total à Doha, au Qatar, avec la présence du Mollah Baradar, l'un des hauts dignitaires talibans depuis le début de cette année. Ajoutons que voir les États-Unis s'engager dans une logique de retrait du Proche et du Moyen-Orient, c'est quand même séduisant vu le chaos provoqué par leurs interventions en Syrie depuis 30 ans. Donald Trump trouve tout cela inutile, il veut ramener les « boys » à la maison, y compris pour des raisons électorales d'ailleurs, on ne peut pas lui donner tort. En fait, l'accord semble d'ailleurs quasi bouclé. Le plan aurait été présenté à Donald Trump avant-hier. L'émissaire américain Zalmay Khalilzad est retourné cet après-midi même au Qatar. Ce plan prévoit notamment, on le sait, le retrait d'ici 5 mois de 5 500 des 14 000 soldats américains encore présents sur place. Le reste d'ici fin 2020. Alors oui, comment ne pas avoir envie de croire à la paix? Sauf que voilà, ce n'est pas un accord de paix. C'est en fait une retraite américaine après une défaite un peu comme le Vietnam.
Mais donc, c'est pas plus mal, si?
C'est pas plus mal, mais ça laisse le champ libre aux talibans. Fait révélateur d'ailleurs, révélé ce matin par le magazine Time, le patron de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, refuse pour l'instant d'apposer sa signature à cet accord. Le problème est tout simple, il semble ne pas y avoir grand-chose en contrepartie de ce retrait militaire américain. En face, il n'y a que des promesses et donc beaucoup de questions. Je vais vous en citer quelques-unes. À court terme, quid du processus électoral de cette présidentielle du 28 septembre? Le dernier scrutin en Afghanistan, les législatives il y a un an, avait été un modèle de désorganisation pour ne pas dire plus. Surtout à moyen terme, quelle garantie démocratique? Pour dire la vérité, aucune. Les talibans promettent qu'une fois cet accord signé avec les Américains, ils accepteront enfin de négocier avec le pouvoir civil afghan, ce serait à Oslo. Mais c'est une simple parole et surtout, quel droit pour les femmes? Ces droits totalement bafoués à la fin des années 90, quand les talibans étaient au pouvoir, travail, scolarisation, droits élémentaires. Les talibans demeurent convaincus que la loi divine est supérieure à tout. Ils maîtrisent militairement la moitié du pays au moins. Ils contrôlent l'essentiel de l'économie informelle, le racket, le trafic d'opium. Et dans les régions qu'ils contrôlent, ils continuent de recourir aux flagellations, aux exécutions sommaires, etc. Donc on a du mal à croire dans leurs engagements. Et puis une fois le processus de retrait militaire américain enclenché, il y aura guère plus moyen de faire marche arrière.
Donc dans cet accord, ils sont quand même censés renoncer à appuyer les groupes terroristes internationaux comme Al-Qaïda.
C'est vrai, c'est ce qui devrait figurer dans l'accord. Mais là encore, comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et de une, les talibans pratiquent eux-mêmes le terrorisme. Ils ne le font que sur le sol afghan, c'est entendu, mais ils le font tout de même. 10 morts ce matin à Kaboul, 16 morts il y a 3 jours, etc. etc. Et de deux, ils continuent d'avoir des liens avec Al-Qaïda. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'ONU soumis au Conseil de sécurité il y a 2 mois, au début de l'été. Des cellules d'Al-Qaïda se sont reconstituées dans le nord-est du pays, près du Tadjikistan notamment. Et de 3, le groupe État islamique est lui aussi présent en Afghanistan. Il compterait 3 500 hommes environ, dont, soit dit en passant, plusieurs Français selon des sources concordantes. Donc le risque terroriste est majeur. Et enfin, pour achever le tableau, il y a 2 acteurs qui attendent un peu leur heure en coulisses. La Russie d'abord, qui a entrepris des négociations parallèles avec les talibans et qui s'impose à nouveau, on le sait, dans tous les dossiers du Proche et du Moyen-Orient. Et puis dans une autre, toute autre gamme, les sociétés privées de sécurité comme l'américaine Blackwater, elles espèrent bien récupérer la mise après le retrait des soldats américains et on sait les dégâts que ces compagnies de sécurité ont fait en Irak. Donc décidément, ce plan de paix, entre guillemets, n'en est pas un.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four, merci beaucoup Jean-Marc. Nous on reste ensemble pour le journal de Sébastien Power d'abord et puis le téléphone sonne ensuite. Merci de passer la journée avec nous, ne bougez pas.